marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Le monde a les yeux fixés sur Paris. Paris est redevenu pour 3 mois la capitale diplomatique du monde.
Les droits de l'homme de la Déclaration universelle au pacte de Marrakech.
La Commission des droits de l'homme, créée par l'Organisation des Nations Unies, commence ses travaux sous la présidence de Madame Eleanor Roosevelt. La Commission rédige une déclaration universelle qui est soumise à l'Assemblée générale siégeant à Paris au Palais de Chaillot. Elle est adoptée par 48 voix sans opposition et 8 abstentions le 10 décembre 1948. C'est la première fois que les nations envisagent de faire suivre une déclaration des droits de l'homme d'un pacte qui les obligerait à les respecter.
Il arrive que Paris attire les regards pour les meilleures raisons du monde. C'est ainsi qu'il y a 70 ans, 10 décembre, y fut signée la Déclaration universelle des droits de l'homme. La France, cette année, a choisi de ne pas donner un éclat particulier à cet anniversaire. Sa diplomatie se revendique d'ailleurs de moins en moins des droits de l'homme. Elle n'est pas la seule à être gagnée par le doute. Le 11 novembre, Angela Merkel, en visite mémorielle dans notre pays, se demandait si nous serions encore capables, en tant qu'Assemblée des Nations, d'approuver la déclaration. En 1948, en effet, la monstruosité de la Seconde Guerre était inscrite dans les esprits et la guerre froide n'avait pas encore grippé les mécanismes de régulation internationale. Les négociateurs de la déclaration avaient donc tiré le parti qu'ils pouvaient de cette éclaircie exceptionnelle. La déclaration demeure comme une référence et une plateforme dans laquelle peuvent s'emboîter des instances régionales, par exemple, et des textes sur des questions spécifiques. Parmi les questions relatives aux droits de l'homme, chaudement débattues aujourd'hui, celle des migrants. En témoigne le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, je cite, qui doit être entériné aujourd'hui à Marrakech. Il déclenche, on le sait, une campagne d'opposition dans des pays qu'on croyait jusqu'ici acquis à l'esprit de la Déclaration universelle. Barack Obama disait un jour « Les droits de l'homme sont universels, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi ». On savait déjà que l'esprit de la Déclaration avait été contesté par les régimes marxistes, puis ceux des pays en développement ou émergents. On savait l'opposition d'une grande partie du monde musulman. Mais la nouveauté est que, cette année, l'opposition au pacte est menée depuis les États-Unis par le successeur d'Obama et en Europe par les pays illibéraux qui mettent plus haut que tout leur souveraineté nationale.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie d'Olivier Defrouville, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Professeur de droit public à Panthéon-Assas et qui réfléchit depuis toujours sur une théorie démocratique des droits, du droit international. Vous pouvez nous raconter ce qu'était l'ONU, beaucoup plus petite qu'aujourd'hui, en 1948?
Oui, l'ONU, c'était 58 États. C'était les États qui sortaient de la Seconde Guerre mondiale, victorieux. Donc c'était les États européens, divisés déjà pratiquement en deux, avec l'Europe de l'Est, l'Union soviétique et ses satellites, les États occidentaux, mais aussi un certain nombre d'autres États qui avaient participé à l'effort de guerre en Asie, en Amérique et en Afrique aussi.
Alors en 48, oui, la fracture commence à s'ouvrir entre les pays slaves, comme disaient les négociateurs de 48, les pays de l'Est et les pays occidentaux, mais en 1946, quand l'Assemblée générale des Nations unies avait lancé la réflexion sur la déclaration, la guerre froide n'avait pas commencé.
Oui, alors c'est là que ça a commencé à se mettre en place et puis ça s'est radicalisé, je dirais, en 1949, donc juste après l'adoption de la déclaration. Les rédacteurs ont senti les choses venir, d'ailleurs. Stéphane Hessel, qui avait assisté à ces moments-là, le disait, c'était une courte éclaircie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a été décidé de transmettre à l'Assemblée générale le texte seul de la déclaration, sans le pacte, la convention internationale, qui pouvait y être adjointe par la suite.
Oui, parce que au départ, on avait déjà pensé à des volets d'application, à des volets un peu contraignants, mais la déclaration, en 1948 en tout cas, est restée seule, comme les tables de la loi humaine. Ça, c'est une expression qui était peut-être utilisée par le premier violon de la négociation, qui était un Français, René Cassin. On dit maintenant qu'il faut plutôt trop insister sur le côté temple de la colline de Chaillot, lieu de la signature.
Oui, alors il avait utilisé cette expression, il avait utilisé aussi l'expression de temple, et en même temps, c'est quelqu'un qui a participé avec d'autres, en particulier avec le négociateur chinois, le représentant de la Chine de l'époque, Chang, à concevoir à ce moment-là une déclaration qui ne soit pas placée justement sous un signe divin ou qui ne soit pas quelque chose d'abstrait, d'universel, un universel abstrait mais d'un universel concret. Il y avait cette idée vraiment d'une pragmatique des droits de l'homme dès le départ.
Alors pour être dans le concret, Olivier de Frouville, comme on va parler, on va mettre l'accent beaucoup pendant cette émission sur certains articles de la déclaration qui concernent l'immigration, l'émigration, les réfugiés. René Cassin, c'est quelqu'un qui a été privé de sa nationalité quand il a rejoint la France libre. Il est extrêmement amer, après la fin de la guerre, de voir les Juifs confinés dans des camps en attendant qu'un pays veuille bien les accueillir. Et puis il est conscient, comme chacun, dans sa chair, de l'énorme, du massif problème des réfugiés, des migrations forcées qui ont suivi le chaos de la fin de la guerre. Tenez un exemple, il est pris en Prusse orientale, ça pourrait être en Poméranie, en Silésie, en Bohême. Il s'agit des réfugiés allemands au moment de la défaite de Hitler.
Le jour où on a su que les Russes arrivaient, mon enfance s'est terminée. Fini les jeux. Il n'y avait plus que la peur dans tout le village. Elle s'est emparée des adultes qui nous l'ont transmise, à nous les enfants.
Beaucoup voulaient partir. Toutes les voitures étaient chargées, même à la ferme. Les granges étaient remplies de voitures prêtes à partir.
Il faut vous en aller maintenant. Il faut faire vos bagages. Et n'emportez que le nécessaire, surtout des choses bien chaudes, bonnets, écharpes, chaussettes, vestes. Soyez prêts dans 2 heures. Hélène ? Hélène ? Pas de gros paquets. Seulement ce que 2 mains peuvent porter. Le mieux, c'est un sac à dos. Ce n'est pas une prière. C'est un ordre que je vous donne.
Qu'est-ce que tu t'imagines qui va se passer? Dans quelques jours, ils seront là. C'est maintenant qu'on doit évacuer. Tout le monde doit partir, tout le monde.
Un film tiré de la vie de la comtesse von Donow qu'on va retrouver ensuite à la tête de Die Zeit à Hambourg aux côtés du chancelier Schmitt. Les droits politiques et civiques d'un côté, les droits économiques et sociaux de l'autre. Les textes de la Déclaration universelle relatifs aux questions de l'émigration, des réfugiés, ça appartient à laquelle de ces deux catégories ?
Ah ben les deux. Puisque tous les droits de l'homme sont indivisibles et interdépendants. Ça a été un des grands principes qu'a posé la Déclaration universelle, avec l'approbation notamment et le soutien de René Cassin, qui de ce point de vue-là a fait, avec d'autres, le pont avec la doctrine soviétique des droits de l'homme, la critique marxiste des droits de l'homme, qui voulait insister justement sur la priorité des droits économiques et sociaux.
Le droit au travail, le droit de s'affilier à un syndicat, le droit à être protégé du chômage, voilà. Etc.
Et le génie de Cassin et de Roosevelt, c'est d'avoir compris ça et d'avoir accepté l'intégration des droits économiques et sociaux dans la Déclaration. Et donc d'avoir, d'une certaine manière, pris en compte, fait évoluer la catégorie des droits de l'homme à la lumière de cette critique marxiste. C'est un grand apport. Mais alors, les migrants, bien comme tous les êtres humains, bénéficient de l'ensemble des droits de l'homme économiques, sociaux, culturels, civils et politiques.
Vous dites Roosevelt, c'est Madame Roosevelt.
Madame Roosevelt, oui. Eleanor Roosevelt, oui.
Dont on a dit qu'elle était le chef d'orchestre de la négociation et René Cassin le premier violon. Voilà. Est-ce que c'est pas mettre un peu trop l'accent sur l'influence des pays occidentaux, comme s'il y avait qu'eux?
Peut-être un peu. C'est vrai que, alors on dit souvent aussi qu'il y avait 3 géants, il y avait Eleanor Roosevelt, René Cassin, Charles Malik et Chang, le chinois, qui étaient vraiment, disons, les trois intellectuels, les trois penseurs.
Et qui était le troisième?
Les quatre.
Oui, mais le troisième, il était de quel
Charles
pays?
Malik, du Liban, qui était un philosophe libanais, qui enseignait à Harvard, mais qui a vraiment une pensée très fascinante, alors à la fois inspirée par le thomisme, l'existentialisme, et qui a joué un grand rôle. Il y a vraiment des discussions passionnantes quand on relit les travaux préparatoires.
Le vote a été annoncé à son trompe le 10 décembre, il y a 70 ans, 48 voix pour, mais alors il y a quand même un certain nombre de voix qui se sont dispersées.
Oui, alors c'est-à-dire qu'à ce moment-là, bon, on disait c'était une courte éclaircie, donc il y a déjà une radicalisation quand même de l'Union soviétique et de ses satellites. Alors ils ne votent pas contre, mais ils s'abstiennent tout en critiquant. Ils continuent à dire qu'au fond la déclaration insiste trop encore sur les droits civils et politiques, est encore trop redevable de la tradition libérale et bourgeoise. Et puis il y a deux autres pays dont on peut comprendre les craintes ou les oppositions, c'est l'Afrique du Sud à un moment où l'apartheid est en plein développement, et l'Arabie saoudite, bien qui s'oppose aux dispositions sur l'égalité entre l'homme et la femme, qui ont été obtenues d'ailleurs de haute lutte par Eleanor Roosevelt, mais beaucoup plus encore par Hansa Mehta, qui était la déléguée indienne, qui était une féministe indienne, qui a participé à la lutte de libération nationale en Inde, qui était membre du Parlement, qui a participé à la rédaction de la Constitution, et qui a joué un grand rôle pour défendre les droits des femmes et l'égalité entre hommes et femmes dans la déclaration.
Alors j'en viens à l'article 13 qui concerne l'immigration. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Donc, il est donc question de l'immigration. Le commentaire du professeur René Cassin.
Dans le domaine des relations internationales, l'article 13 n'a pas été voté unanimement. Monsieur Carton-Leviard, délégué belge, a affirmé que l'idéal serait le retour au temps où l'on pouvait faire le tour du monde muni de sa seule carte de visite. Mais le principe du droit à l'émigration a été très vivement combattu par les délégations slaves, et en particulier la délégation soviétique, comme contraire à la souveraineté de l'État. Cependant, l'article 13, qui reconnaît le droit à l'émigration, est muet sur le droit symétrique, celui d'immigrer, c'est-à-dire de pénétrer dans le pays de son choix. Un tel droit n'a été reconnu nulle part. Et l'idéal en cette matière est encore plus éloigné de la réalité que dans le domaine de l'émigration. Les lois nationales sur l'immigration, sur l'accès et l'entrée dans un territoire, ne sont pas encore, hélas, prêts de plier devant les goûts de chaque individu.
Ainsi, la Déclaration universelle est muette sur le droit d'immigrer.
Oui. Alors, Cassin était très visionnaire, hein, une fois de plus. Vous nous y entendez tout à l'heure un son sur les réfugiés après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait deux grands thèmes qui soutenaient dans le cadre de l'élaboration de la déclaration. Premièrement, la déclaration pour prévenir le retour de la guerre. Ça, c'était quand même son thème favori. Lui, grand blessé de la Marne et ayant milité pour la paix dans l'entre-deux-guerres. Et puis, deuxièmement, il y avait effectivement le fait que seule une déclaration internationale, au début on l'appelait internationale, pourrait protéger et amener à la protection d'un certain nombre de droits de personnes qui sont par essence sans droit, en particulier les réfugiés, parce qu'ils ne peuvent plus se réclamer de la protection de leur pays. Et donc il insistait beaucoup sur ce qu'il appelait les droits internationaux dans la déclaration internationale, donc le droit de quitter son pays, effectivement, le droit d'asile aussi à l'article 14, et puis le droit à une nationalité aussi, sur lequel il a beaucoup insisté, et lui-même qui avait été déchu de sa nationalité, vous l'avez rappelé, pensait que la seule protection qui pourrait advenir pour protéger ce droit à la nationalité, ça devait nécessairement venir d'une institution internationale.
Vous avez noté quand même la phrase, marquée de regret, les lois nationales ne sont pas prêtes à plier.
Oui, alors c'est-à-dire que là, il s'inscrit dans une grande tradition qui est celle du cosmopolitisme, comme d'autres personnes, comme Victor Bache, par exemple, dans l'entre-deux-guerres.
Comme le délégué belge de l'époque, qui ne tient pas le langage belge d'aujourd'hui, qui dit on devrait pouvoir se promener avec une carte de visite, même pas besoin de passeport. Enfin.
Oui, absolument. Cela dit, il le regrette, mais c'est un regret qui correspond à une aspiration, à un idéalisme. Il ne croit pas. René Cassin n'avait pas défendu à ce moment-là la consécration d'un droit à l'immigration, parce qu'il savait que ce n'était pas réalisable. C'était quelqu'un très réaliste, par ailleurs, dans son idéalisme.
Donc nous sommes en décembre 1948. Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La Déclaration universelle des droits de l'homme, votée par une résolution de l'Assemblée, aura avant tout une immense valeur morale comme guide de la politique des États membres et comme phare pour l'espérance des peuples, comme plateforme pour l'action des groupements civiques de toutes les nations. Mais l'intérêt principal de la Déclaration, c'est en énumérant et en définissant les droits de l'homme, de préparer la voie à des conventions générales qui permettront de préciser les contours de ces différents droits et surtout d'aborder les problèmes de la mise en vigueur, de la mise en œuvre, soit nationale, soit internationale.
La mise en vigueur de la Déclaration universelle, Olivier de Frouville. Vous disiez qu'Assin est visionnaire. Voilà que je l'imagine en savant tournesol avec une plateforme, il emploie le mot plateforme, et puis une fusée avec des étages. Alors qu'est-ce que ça va être, les étages ?
Encore une fois, il était très tactique. C'est un idéaliste réaliste, hein. c'est un idéaliste pragmatique. Il y a deux idées là dans ce magnifique son. La première idée, d'abord, c'est de s'appuyer sur la société civile et sur les sociétés nationales. Ça, c'était très important pour lui. Il avait observé l'activité des ONG, en particulier des ONG américaines, lors de la négociation de la Charte des Nations Unies, et il connaissait l'importance du soutien des opinions publiques et des associations à cette cause. Et il fallait la promouvoir. Le deuxième élément, et ça il l'avait déjà pensé en rédigeant la déclaration, c'est qu'il fallait pas en rester là, il fallait aussi ensuite adopter d'autres textes, des conventions internationales, des traités que des États ratifieraient pour s'obliger et mettre en œuvre dans leur droit national et en pratique les droits reconnus par la déclaration. Et donc ça c'est effectivement quelque chose qui était déjà lancé hein, au moment de l'élaboration de la déclaration, qui s'est continué par la suite, qui a abouti d'abord en 1966 avec l'adoption des deux pactes sur les droits civils et politiques.
On va parler des pactes, parce que le sens du mot pacte est plus complexe qu'on ne le pense peut-être aujourd'hui. Mais ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est une société, allez, j'ai le provocateur, de surveillance mutuelle, où chaque pays regarde l'autre par-dessus l'épaule pour voir s'il fait bien. Et c'est une sorte de contagion du bien, comme ça, qui va se mettre en place.
Oui, alors il y a une dimension de sécurité collective, c'est-à-dire que les États sont tous garants du respect des droits de l'homme par les autres, d'une certaine manière, mais c'est plus que ça. Et c'est là où la vision de Cassin, en évoquant la société civile, les ONG, les sociétés, va plus loin. C'est que lui, il est dans la vision d'une société humaine universelle, où les citoyens, qui sont à la fois citoyens de leurs États et citoyens du monde, participent aussi à la promotion et à la protection des droits de l'homme.
Ça veut dire en clair qu'une violation commise ici, elle devrait être ressentie partout ailleurs.
Voilà, comme le disait Kant en 1795. Et aujourd'hui, on peut dire d'une certaine manière que cet idéal kantien et réalisé en partie. C'est vrai que toute violation produite quelque part dans le monde est ressentie partout ailleurs grâce à cette vision, justement.
Attendez, il faut que vous nous expliquiez le dispositif alors mis en place. Les plateformes, il y a des instances, il y a des textes.
Ah oui, alors il y a des textes, il y a 9 conventions internationales au niveau des Nations Unies, puis il y a des conventions régionales comme la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple. Et chacune de ces conventions met en place des organes indépendants, que ce soit des comités ou des juridictions, qui ont pour fonction de surveiller la situation des droits de l'homme dans tous les pays.
Il manque juste l'Asie.
Alors non, pas forcément. L'Asie est aussi intégrée. Ça dépend dans quel système. Le système du Conseil des droits de l'homme, avec tous les experts qui travaillent dans le cadre du Conseil des droits de l'homme, ont une juridiction universelle, on pourrait dire. Ils ont une compétence universelle sur tous les pays. Donc ils peuvent réagir à toute information, d'où qu'elle vienne, et y compris d'ailleurs sur des sujets qui concernent des questions qui concernent des traités que les États n'ont pas ratifiés, les États concernés n'ont pas ratifié.
Mais il faudrait, l'idéal, une possibilité qu'une plainte individuelle arrive devant une cour universelle.
Alors, c'est peut-être la pièce manquante aujourd'hui dans l'édifice. On a des cours régionales aux Amériques, en Afrique, sur le plan européen. Elles vont toutes qu'un cas, on pourrait dire. Mais de toute façon, tout a toujours été qu'un cas, on pourrait dire, en matière de droits de l'homme. C'est une lutte quotidienne qui est menée.
Donc vous êtes un pragmatique. Restez idéaliste.
Moi, je suis comme... Je prends en modèle sur Cassin, c'est-à-dire je suis un idéaliste réaliste.
Non, pratique. C'est l'inverse, à mon sens. Et les textes. Alors, vous avez cité incidemment le pacte qu'est-ce que ça veut dire, pacte? Le pacte de 66.
Oui, alors la dénomination de pacte est utilisée en droit international pour des tas de textes qui ont des valeurs différentes. En l'occurrence, en 1966, le terme pacte est utilisé pour désigner une convention, un traité international, donc qui est obligatoire pour les États qui le ratifient, qui consentent.
Alors là, il faut s'accrocher parce que le mot pacte, il est utilisé à l'occasion d'un autre texte, lequel est dénoncé violemment par les vidéos virales des réseaux sociaux. Et puis tout ça rebondit grâce à l'hystérisation des chaînes d'information continue. Alors, en 2016, depuis 10 ans, on pensait à des pactes concernant les migrants et les réfugiés. On y pensait vraiment depuis le début du XXe siècle. Enfin, je sais pas, du côté français, depuis Sarkozy et Hortefeux, par exemple.
Ah oui, oui, mais même avant, il y a déjà une convention internationale sur les migrants qui est adoptée au début des années 90, il y a les conventions de l'OIT, donc il y a déjà tout un travail qui est fait, mais enfin qui reste encore, on trouve en 2006, insatisfaisant, parce qu'en réalité il est fondé sur une base essentiellement asymétrique. Si vous voulez, c'est un petit peu les états d'origine contre les états de destination dans le droit international. Donc on se dit en 2006 qu'il faut changer un peu le rapport, il faut changer un peu la donne et avoir une approche plus globale.
Alors le secrétaire général de l'époque, Ban Ki-moon, vous insistez sur le rôle de l'opinion publique. Je ne sais pas si le moment est devenu favorable parce que celle-ci a réagi à l'image de cet enfant syrien mort, échoué sur une plage de Turquie, en tout cas, septembre 2016.
C'était en septembre 2016. Réunis en Assemblée générale, les 193 pays membres de l'ONU adoptaient à l'unanimité un texte, la déclaration de New York pour les migrants et les réfugiés. Objectif, améliorer la gestion internationale de ces populations. Protection, accueil, emploi et aide au retour compris.
Les États membres reconnaissent le poids qui pèse sur les pays qui accueillent de nombreux réfugiés. Ensemble, nous pouvons dessiner un nouvel avenir. Un avenir où migrants et réfugiés, pays et communautés d'accueil peuvent vivre en harmonie, dans le bien-être et le respect mutuel.
Une belle déclaration, touchante et généreuse. Avec en pratique un mandat donné au Haut Commissariat aux réfugiés d'élaborer un pacte mondial en 2018.
On va voir qu'il y en aura peut-être deux. Mais avant d'examiner cette bifurcation, il me semble, à l'écoute, que là, ce qui est reconnu comme prioritaire, c'est l'état des pays de destination sur lesquels pèse un poids très lourd. Alors, est-il dit, c'est eux qui sont à la manœuvre, les pays de destination?
Oui, oui. Alors effectivement, c'est-à-dire que en fait, la démarche, elle est davantage menée par les pays de destination qui veulent pouvoir, et ça va être la suite du processus, qui veulent pouvoir d'une certaine manière conditionner l'aide au développement à des mesures prises par les États d'origine pour maîtriser les flux migratoires chez eux. Et c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure effectivement de Brice Hortefeux et de Nicolas Sarkozy, qui passent pas précisément pour des grands défenseurs d'un droit à l'immigration. Ils ont été derrière, ils ont été très actifs derrière cette démarche. Ils ont encouragé justement ce lien entre développement et immigration qui a été à l'origine de tout le processus qui nous mène aujourd'hui au pacte, qu'on appelle d'ailleurs, je le dis entre parenthèses, Global Compact en anglais.
Oui, ça, c'est un petit problème de traduction. Idée. C'est peut-être pas une très bonne idée de vouloir introduire ce mot-là.
C'est-à-dire que... les pactes des droits de l'homme, on va nous dire en anglais, c'est les covenants. Donc vous voyez, c'est un mot différent.
On va nous dire qu'on va s'exprimer dans une langue unique, dominante. Attention à l'effet de ce que vous dites.
C'est pour dire qu'en fait, quand on parle de ce pacte, ça n'a rien à voir avec les deux pactes dont on a parlé précédemment, ceux de 1966, qui sont des conventions internationales. Ici, ce pacte Global Compact et pas Covenant n'est pas un texte obligatoire. C'est davantage un programme d'action, une politique publique, au fond, un programme de coordination et de gouvernance entre les États.
Oui, mais enfin, on dit que le texte suggère que les migrations sont quand même positives.
Oui, mais ça c'est vrai, c'est factuellement attesté. On dit aussi que ça a des effets négatifs, d'ailleurs y compris dans le pacte, on met en garde sur la nécessité de prévoir des mesures pour faire en sorte que, en particulier, par exemple, la culture des pays d'accueil soit respectée. Donc les aspects positifs et sur le plan économique en particulier sont incontestables. Les risques aussi sont pris en compte par le pacte. dans cette négociation, vous le disiez tout à l'heure, les États de destination ont joué un rôle très important. Ce sont eux qui étaient plutôt demandeurs, en fait, de cette négociation, de manière à mettre les pays d'origine dans la barque et à leur demander, eux aussi, de prendre des mesures. Donc le pacte prévoit des obligations, enfin en tout cas des obligations, recommande un certain nombre d'actions pour tous les États d'origine, de transit et de destination, en partant du principe qu'aucun État seul ne peut prendre en charge ce problème.
Oui, parce que je ne sais pas comment ça se dit en anglais, mais c'est la définition d'un cadre de coopération juridique non contraignant.
Oui, absolument. Oui, c'est non-binding.
Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça.
C'est non contraignant. C'est un programme d'action.
Le choix de Marrakech a été fait parce que le roi Mohamed VI, en 2016, et même avant, dès 2013, a mis en place une stratégie nationale d'immigration et d'asile, et revenu dans le cadre de l'Union africaine, même si ses services de sécurité ont tendance à éloigner toute personne noire de ses frontières. Quand on y réfléchit, on voit bien que le moment n'est plus à la hausse pour les actions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comment interprétez-vous ça? On dit on ne peut pas fonder une politique uniquement sur les droits de l'homme. Notre soutien à la démocratie, ça dépend peut-être de nobles idéaux, mais enfin, ces nobles idéaux ne sont partagés que si notre situation sociale concrète est excitante, est à la hausse.
Je crois qu'il faut se méfier. Moi, j'entends beaucoup, effectivement, de discours pessimistes autour de cet anniversaire. Il faut vraiment se méfier. D'abord, il faut regarder d'où on vient. En 70 ans, les progrès absolument immenses qui ont été accomplis en matière de droits de l'homme, il faut dire qu'avant 45, il n'y avait pas de droits de l'homme en droit international. Donc, ça n'était pas du tout une question même discutée entre les nations. Et puis, deuxièmement, il faut aussi relativiser les critiques et les mettre en relation avec le nombre de gens croissants qui, aujourd'hui, dans toutes les sociétés tout autour du monde défendent les droits de l'homme, sont des défenseurs actifs des droits de l'homme, réclament et se réclament des droits de l'homme. Donc je crois qu'il faut faire un petit peu attention, surtout aussi de ne pas réduire les individus à leurs états, hein, de dire au fond bah, tel état s'oppose, la Turquie s'oppose aux droits de l'homme. Mais oui, Erdogan s'oppose aux droits de l'homme, mais on peut comprendre pourquoi. Est-ce que tous les Turcs s'opposent aux droits de l'homme ?
Olivier de Frouville, si vous n'étiez pas professeur de droit public, mais professeur d'économie, vous enseigneriez les cycles longs et non pas les cycles courts. Alors on est peut-être sur un cycle court descendant, mais si on calcule en décennies, voire en siècles. Merci à vous pour cette émission consacrée au 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, préparée par Martin Cellier, Frédéric Martin, Franck Olivard, à la technique Philippe Duclos, et à la réalisation Valérie Aestaraille.